Chers auditeurs de Radio Capi, merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Nous voici dans la deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Et de quoi allons-nous parler dans cette deuxième partie, bien, quels sont les préalables à réunir avant de lever le moratoire sur les concessions forestières en RDC? Nous en parlons avec notre invité qui va nous rejoindre tout à l'heure dans ce studio. Il s'agit de Guy Kanjimbo, coordinateur du groupe de travail Climat RED. Si vous êtes intéressé, je rappelle le numéro des contacts, c'est les 0 81 890 63 94 ou les 099 716 63 94.
Au Capi Service.
Au Capi, Radio Capi.
Ça se passe près de chez vous.
Pendant la réunion du Conseil de ministres du 15 octobre dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ordonné la suspension de toutes les concessions forestières douteuses, y compris les 6 concessions octroyées en septembre 2020. Cette décision a été vivement saluée par les acteurs de la société civile œuvrant dans les secteurs de l'environnement et développement durable, car la levée du moratoire en vigueur depuis 2006 risque d'entraver les actions menées dans les domaines de protection de l'environnement en RDC, après les membres des ONG qui travaillent, bien entendu, dans ces secteurs. Quels sont donc les préalables à réunir avant de lever le moratoire sur les concessions forestières en RDC? Je le disais, on en parle dans cette deuxième partie du magazine au Capi Service avec notre invité, Guy Kanjimbo, coordinateur du groupe de travail Climat RED, qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Monsieur Guy Kanjimbo, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces sujets sur les préalables à réunir avant de lever le moratoire sur les concessions forestières en RDC. Alors, avant de parler de préalables, parlez-nous un peu de ce moratoire sur les concessions forestières en RDC.
Oui, merci beaucoup. Le moratoire a été institué à un certain moment de la vie de notre pays, de la gestion des forêts, quand on a trouvé qu'il y avait un désordre Créant dans la gestion, dans la gouvernance de la forêt. Et institué par, après un certain nombre de plaidoyers, par un décret du Premier ministre qui avait suspendu un peu cette question-là. Et à ce niveau-là, on a émis un certain nombre de conditions et qui ont été rencontrées avec les efforts, déjà il y a 20 ans, donc c'est trop vieux quand même. Et c'est fatigant aussi, on ne peut pas vivre dans un moratoire pendant 20 ans. Et que donc, les deux conditions avaient été rencontrées. Et il y avait une troisième condition qui posait encore problème, c'était la programmation géographique, comme on l'a toujours dit. La programmation géographique, c'est donc, c'est à prendre comme une perspective d'aménagement du territoire, conduite sous une démarche intersectorielle concertée et ouverte. Et donc, c'est cette partie-là qui posait encore problème et qui continue à poser problème dans les discussions actuelles. Et nous, comme acteurs de la société civile, comme groupe de travail Climat RED Rénové,
oui,
nous n'avons... en fait, un pays ne peut pas vivre sous le moratoire. Et un moratoire, c'est avec un délai, en principe.
Donc, vous avez dit depuis 2006, hein? C'est 2006, ça, tout à fait. Oui, ça fait quand même beaucoup d'années. Hein?
Beaucoup d'années, oui. Et alors, on s'est dit... On a encouragé depuis 2018-2019 le gouvernement à aller vers la levée, tout en essayant un peu de faire un effort pour essayer un peu de rencontrer la dernière condition. Et voilà, et donc c'est là où nous sommes. Maintenant, il y a un débat.
Tout à fait.
Un débat entre nous et le gouvernement actuel sur la levée ou non, sans condition, avec condition.
Alors, si il y a de préalables par rapport au désordre qui a régné dans ces secteurs et qui a mené à ce moratoire, pensez-vous à quels sont les préalables qu'il faut réunir avant de lever ce moratoire?
Nous, on ne veut pas compliquer les choses comme les autres acteurs. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas résoudre aujourd'hui.
Oui.
Notre gouvernance forestière est ce qu'elle est, et ce n'est pas dans un clin d'œil qu'on peut la rendre plus bonne ou quoi. Mais le décret avait, il y avait, comme je disais, une troisième condition qui parlait de la programmation géographique. Donc il fallait exactement avoir une idée sur les espaces forestiers, les définir, les localiser, les géolocaliser, D'autant plus qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la superposition des terres. Il y a des problèmes liés à la présence même de minéraux dans certains espaces forestiers, aux conflits liés entre les cadastres, différents cadastres miniers, fonciers, forestiers et tout. Et que donc ce travail-là pourrait déjà éclairer l'opinion pour que la gouvernance soit plus claire, pour qu'on sache effectivement quels sont les espaces forestiers pour lesquels on peut octroyer des concessions de conservation ou pour d'autres exploitations, les zones tampons pour les communautés locales et ainsi de suite.
Alors vous êtes un coordonnateur du groupe de travail climat RENS. C'est quoi exactement votre travail? Et puis par rapport à tous ces désordres qui a régné hein, pour ce qui est de des concessions forestières à RDC, c'est quoi votre rapport pour en tout cas essayer de mettre de l'ordre dans ces secteurs?
Nous essayons de faire un travail technique, un travail de parce que nous sommes un groupe de travail climat RENS rénové, c'est-à-dire que notre souci, c'est de nous rassurer que les engagements de la République par rapport aux différents niveaux national et international sont en train d'être respectés dans le sens d'une bonne gouvernance d'espace forestier, dans le sens de la réduction de la pauvreté des communautés qui vivent dans les forêts. Vous savez que les communautés qui vivent dans ces forêts ou autour de ces forêts sont parmi les communautés les plus pauvres de ce pays. Vous allez en Bouganda, vous allez trouver des gens qui sont encore par terre, assis par terre dans la forêt. Donc, ils étudient par terre, reportage sont dans la forêt. Et que donc, toute cette inquiétude-là nous a poussé à voir un peu comment est-ce qu'on pourrait accompagner la République à mobiliser des ressources en lien avec ces forêts-là qui sont très utiles pour l'humanité. Et pour le faire, il faut donner des garanties. Il faut donner des garanties aux donateurs, donner des garanties à tous ceux qui veulent, que notre pays puisse rester les poumons. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous travaillons efficacement pour essayer un peu d'accompagner le gouvernement, de faire les plaidoyers à tous les niveaux, de manière à sorte que notre gouvernance, que notre pays puisse d'une part bénéficier des appuis par rapport à notre capacité de préserver les forêts et d'autre part aussi faire un effort pour que ces communautés puissent sortir dans la misère dans laquelle elles se retrouvent.
Alors, s'il faut aujourd'hui lever ce moratoire sur les concessions forestières en RDC, vous pensez qu'il faut y aller graduellement ou bien il faut y aller une fois pour toutes de manière générale, mais il faut y aller graduellement par rapport aux problèmes qui se posent en différents endroits où il y a ces concessions forestières?
Bon, il y a un débat autour de ça. Il y a des écoles. Et c'est là où nous discutons. Nous sommes encore en train de discuter avec des autres partenaires. C'est que l'idée au départ, en 2018, c'était une condition, une ligne rouge qu'on devait. Nous pensons toujours que parce que le problème persiste. Si vous voyez la question de l'exploitation de dans le parc de Salonga avec le pétrole, donc les problèmes sont là et il faut en finir avec pour s'assurer qu'on a une boussole qui permet à ce qu'on ait une bonne gouvernance. Bon, maintenant, il y a des efforts. Peut-être que nous avons l'habitude de nos sociétés civiles de constater que nos dirigeants sont toujours pressés d'avoir des résultats. C'est bon, c'est parce qu'ils ont des mandats.
Oui.
Mais les résultats, nous pensons qu'il faut qu'aussi, à un moment, on accepte qu'on peut commencer quelque chose et quelqu'un d'autre continue la chose.
Exactement.
Donc, si ça peut faire le temps que ça pourra faire. Et donc, aujourd'hui, la discussion, c'est que nous ne sommes pas contre. Nous sommes pour la levée du moratoire. Comme on a dit, c'est trop vieux et le pays ne peut pas rester sous moratoire. Et que donc, et aussi, en même temps, je l'avais dit la fois dernière ici, que ce n'est pas avec ou sans moratoire, il faut absolument qu'on puisse aussi se tourner vers la bonne gestion de une bonne gouvernance forestière. Parce que les mines n'ont pas de laboratoire aujourd'hui. Est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ça rapporte aux communautés? Donc, c'est pas vraiment ça le vrai problème. Maintenant, la discussion aujourd'hui, c'est qu'il y a une pression forte du gouvernement d'aller vers l'élevé de laboratoire. Et nous disons, nous sommes d'accord qu'on puisse lever le laboratoire. Mais nous disons, même si on ne veut pas en faire une condition stricte, on peut, dans les décrets, ajouter ou insister sur le fait que, progressivement, on va finaliser la programmation géographique. Et nous avons mené des plaidoyers à de très hauts niveaux pour rassurer le gouvernement aujourd'hui que les financements sont disponibles pour finaliser cette question-là. Donc c'est un peu à ce niveau-là où la discussion est là. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres données qui reviennent avec la dernière décision du chef de l'État et qui remet un peu la discussion sur la table. C'est la suspension des concessions. Voilà.
Voilà, on revient à vous, hein, monsieur Guy Kanjimba, coordonnateur du groupe de travail climat RED. Avec vous, on parle de préalable à revenir avant de lever le moratoire sur les concessions forcières en RDC. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne, Jonas qui nous appelle de Kinshasa, et également Rodrigue qui nous appelle des Puilou. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons donc de ces sujets sur le préalable à réunir avant de lever le moratoire sur les concessions forestières en RDC. Le numéro d'appel, si vous êtes intéressé, c'est le 099-706-6394 ou encore les 081-890-63-94.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables dans ces pays n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bonjour Jonas, vous nous appelez de Kinshasa.
Oui, bonjour monsieur.
On vous écoute Jonas, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Merci beaucoup. J'ai au moins quelques questions à poser à notre invité.
Oui.
Et concernant la décision du chef de l'État, lui qui est expert au moins dans la matière, quel mécanisme peut-il nous donner ou bien l'idée claire pour vraiment donner les bénéfices au gouvernement congolais? Nous avons beaucoup de forêts, nous avons beaucoup d'espaces, mais ce n'est pas bénéfique à la nation congolaise. La question est de savoir quel mécanisme on peut poser pour que les revenus soient vraiment totaux pour les gouvernements congolais, pour les peuples congolais.
Voilà, merci Jonas d'avoir appelé de Kinshasa. Rodrigue, vous êtes à Kwilu. Bonjour Rodrigue. Rodrigue, vous êtes en ligne? Il me semble que Rodrigue n'est pas en ligne, on pourra le retrouver. Plus tard, Célestine Massoudi, qui est à la réalisation, je pense, va tenter de retrouver Rodrigue, qui nous a appelé depuis Kwilu. Alors, comment réagissez-vous à cette préoccupation de Jonas, qui a appelé de Kinshasa, monsieur Guy Kajemba?
Oui, nous continuons, les efforts que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, c'est effectivement faire un effort ou nous rassurer ou continuer à nous battre pour que nos forêts, pour que notre richesse, nos ressources naturelles soient gérées de manière à être utile au pays et utile aux communautés, comme on l'a dit au départ. Et que donc, la décision du chef de l'État de la suspension est la bienvenue. C'est vraiment une chose parce qu'il y a un désordre criant et que, comme je vous disais, ces concessions-là, jusqu'à aujourd'hui, à un certain moment, on ne voit pas les retours ou ce que le pays gagne et ce que la communauté gagne. Maintenant, et c'est surtout que c'est dans l'illégalité, comme on l'a dit. Maintenant, la suspension, c'est une chose. Mais ce que nous aurions voulu, c'est vraiment aller vers l'annulation tout à fait, après un travail de fond. Parce oui. que l'illégalité, ce n'est pas nous, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas qui peut les prouver. Il y a un mécanisme, il y a un ensemble de mécanismes qui sont mis en place pour essayer un peu de confirmer, d'affirmer l'illégalité et de séparer. Il y a beaucoup de concessions. Maintenant, on en a une vingtaine et plus les 6 dernières. Et donc, il y a beaucoup de concessions qu'il faut absolument voir leur niveau de légalité. À notre niveau, a priori, nous avons constaté qu'il y avait légalité, c'est a priori. Et que nous avions, ensemble avec le ministre sortant, accepté, il y a un consensus sur la nécessité de faire une revue légale une analyse approfondie. Et la mission a été diligentée, elle est en cours de route. Et nous pensons qu'avec ça, parallèlement avec le travail qu'a fait l'IGF, dont on n'a pas encore les résultats, on pourrait avoir un peu une lucidité sur ces concessions-là. Alors, l'avantage de ça, c'est quoi pour nous? L'avantage de ça, c'est la crédibilité de la RDC dans les engagements nationaux et internationaux pour mobiliser le financement. Nous avons, dans le processus, nous avons beaucoup d'ouvertures. Bientôt, il y aura la COP 26. Qui se passera à Glasgow, où nous serons là pour faire un grand plaidoyer pour qu'on puisse disponibiliser des financements pour la RDC à travers un document qui est en train d'être finalisé, qu'on appelle la contribution déterminée nationale de la RDC. Et elle est chiffrée en termes d'argent, c'est-à-dire en termes de milliards d'ailleurs. Je pense qu'on est à 26 ou 27 milliards que nous attendons de ces discussions-là. Et c'est en compensation, effectivement, des engagements que nous aurons pris au niveau de la République, des engagements qu'on aura pris et aussi des garanties qu'on pourra donner dans la gouvernance forêt. Notamment, les genres de décisions que le chef de l'État a pris, notamment le travail qu'il doit suivre avec le renforcement de la légalité. Vous avez vu, la fois dernière, le gouvernement a validé les 10 mesures. Bien que nous ne sommes pas d'accord avec toutes les mesures, il y a des mesures salitaires en intérêt qui doivent servir comme boussole. Et toutes ces garanties-là vont nous permettre d'être plus robustes, plus forts dans les négociations pour essayer un peu de mobiliser les moyens. Nous ne pouvons pas accepter que nous soyons un pays aussi riche en biodiversité, aussi riche et que nous soyons toujours, qu'on ne paye pas au prorata des efforts que nous faisons, seulement parce qu'on n'a pas la garantie que nous avons une gouvernance forestière qui rassure les autres. Parce
qu'en fait, pour l'instant, ça c'est quand même un préjudice pour le pays, hein.
Oui, parce que il faut construire une crédibilité, il faut construire une confiance parce qu'en fait, dans ce processus de RED, la réduction des émissions de la déforestation, c'est un processus qui n'est pas, ce ne sont pas des dons, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des paiements basés sur les résultats, ce sont des rétributions. Et si quelqu'un veut vous payer, vous donner des avances, il faut qu'il vous garantisse que la marchandise que vous allez donner est là ou elle sera là. Voyez-vous? Et la marchandise, c'est le carbone, c'est la forêt intacte.
Exactement.
C'est exactement ça.
Notre auditeur en ligne, c'est Jean-Pierre qui nous appelle depuis les Cassos Central. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, cher journaliste, bonjour à l'invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
On vous écoute, Jean-Pierre.
Oui, cher journaliste, par rapport à cette thématique du jour concernant le secteur de l'environnement et du développement rural, pour moi, je proposerais à ce qu'il y ait une organisation des États généraux en ce secteur. Parce que nous voyons beaucoup d'entraves qui freinent le développement dans ce secteur ici. Parce que nous voyons que ça ne marche pas. L'octroi des chantiers dans des forêts, ça ne respecte pas les normes. Normalement, le ministère de l'Environnement et du Développement Rural devrait tabler sur cette matière à ce qu'on puisse organiser les états généraux pour décanter tout ce qui entrave le secteur de l'environnement. Voilà un peu ma préoccupation.
Voilà, merci Jean-Pierre. Vous êtes là à Mikalaï, au Kassai Central. Merci d'avoir contribué à ce magazine en donnant votre avis sur ce qui doit être fait dans le secteur de l'environnement. Je vais également lire cette réaction de Petit Jean sur notre page Facebook. Il écrit ceci: à ce que l'on sache, un moratoire est une mesure conservatoire et dans notre cas, cette mesure conservatoire a été prise pour des objectifs précis et ces objectifs on est sans ignorer qu'ils ne sont pas encore atteints. Cependant, il est impérieux que le pays puisse se focaliser sur l'atteinte de ces objectifs, aplanir les secteurs, assainir les secteurs. Si ces moratoires devaient être donc levés, les ministères de l'Environnement et développement durable devrait définir un cadre d'exploitation contraignant à tout le monde, y compris les particuliers et les industriels, de remplir un certain nombre de conditions avant de faire quoi que ce soit.
Voilà, c'est la programmation géographique qu'elle a définie.
Ouais.
Et donc la programmation géographique suppose la délimitation préliminaire des espaces forestiers potentiellement adjudicables au niveau national. Et que donc c'est ça le vrai problème. Et c'est ce que nous voulons que ça se fasse. Et je crois qu'on est en phase ensemble. Parce qu'il y a déjà des initiatives. C'est pas très compliqué d'ailleurs. C'est pas très compliqué. Il faudrait seulement que de l'autre côté, que le gouvernement soit aussi flexible et soit réceptif pour que nous puissions ensemble travailler sur cette question de programmation géographique qui va aider un peu à clarifier, à mettre un peu à la surface le vrai espace qu'il faut utiliser sur chaque...
Mais un exemple par rapport à cette programmation géographique, par rapport à ce que vous, vous savez, s'il faut parler de cette programmation géographique, donnez-nous un peu d'exemple pour mieux comprendre par rapport aux différentes concessions forestières et par rapport aux problèmes qui se posent.
Ce sont les inventaires. On fait les inventaires des forestiers. On essaie un peu d'identifier les forêts debout, les forêts sacrées, les forêts occupées par les communautés, voir un peu, et puis on fait l'inventaire multi-ressources pour savoir quelles sont les ressources qui se retrouvent dedans. C'est-à-dire une cartographie. Et ce travail a déjà été fait partiellement. C'est question, il y a un moyen de le mettre ensemble et d'ajouter des moyens pour avancer. Déjà, dans l'ancienne province de Bandundu, il y avait déjà un travail qui avait commencé avec les Japonais et qui a un certain nombre d'informations qu'on peut capitaliser. Et aussi, il y a d'autres programmes qui sont en cours, le programme Intégré RED qui d'une part ou d'autre dispose un peu d'un travail. Et aussi, ce que je vais dire ici, et là, félicitations à mon anonyme, Son Excellence le ministre Guy Loando, qui a suffisamment avancé dans la validation ou dans la constitution de la politique sur l'aménagement du territoire. C'est important parce que c'est lié. Et que donc, si ensemble on avance avec cette vision-là, il y a moyen d'aller vers une levée non contestée, une levée de moratoire qui est globale et totale, parce qu'en fait, en enlevant aujourd'hui, il faut qu'on trouve d'autres mesures parce que c'est un décret qui a donné des conditions et si ce décret-là se contredit en levant le moratoire, c'est qu'il y a des conditions qui sont ça ne serait pas bien quoi dans nos termes. Et que donc nous pensons que oui, le moratoire il faut lever le plus tôt possible. Et oui aussi qu'il faut absolument qu'on puisse cette partie est importante, vous savez. C'est là où viennent les conflits fonciers, le problème de tous ces contrats avec les exploitants pétroliers.
Il y a d'ailleurs cette question, excusez-moi de vous interrompre, il y a un auditeur, plutôt un internaute qui a écrit ici, je pense que c'est Fiston, qui s'est posé plusieurs questions, notamment celle de savoir qui octroie, qui suspend, et comment ça se passe l'octroi. Vous avez dit qu'il y avait un désordre dans ces secteurs, c'est qui a menacé que lié effectivement ce moratoire.
Oui, il y a toute une procédure bien claire par rapport à l'obtention ou à choses. Il y a des conditions, il y a des limites qu'on ne peut pas octroyer qui vont au-delà de 500 000 hectares. Ça, c'est une partie. Et que l'autre partie, c'est qu'il y a l'administration forestière qui travaille sur les enquêtes préliminaires, sur l'identification et tout ça, et qui, en fin de compte, se remet au ministre pour prendre la décision de signer le contrat. Et ça, les autres se trouvent à un niveau, au niveau où on ne remplit pas ces conditions-là. Donc, on viole pratiquement le moratoire, parce que le moratoire n'autorise pas qu'on puisse octroyer plus de 500 000 hectares sans un certain nombre de conditions que l'administration doit rencontrer. Il faut descendre sur le terrain, il faut tout ce travail-là.
Voilà, on revient à vous, le temps pour nous de lire encore deux, trois réactions en attendant qu'il y ait d'autres auditeurs par rapport à ce sujet. Il y avait cette réaction, je vais lire ça rapidement, de Patrice Moudiroy qui a écrit ceci. Le secteur de l'environnement est à protéger car la vie de nous tous en dépend. Malheureusement, nous avons toujours condamné la façon dont ces derniers géraient. On ne sait pas à qui ça profite.
Oui, c'est comme on dit. Nous, on a circulé, on continue à circuler. Je viens de Boende, dans les fins fonds de la province. Oui. Je vous dis que c'est dans ces endroits, c'est dans les provinces où on est supposé avoir un développement par rapport à ça, qu'on devait avoir une lucidité de trouver les communautés dans des conditions de vie très acceptables. Et après, à côté, vous allez trouver des exploitants chinois avec des grimes. J'imagine qu'il y a des grimes qui peuvent... Un seul grime peut construire toute une école. Des grimes qui sont là, entassés, et qui attendent d'être acheminés quelque part. Et que donc, c'est important que ce secteur soit bien suivi, parce que c'est ça, non seulement c'est l'intérêt de l'humanité, mais c'est l'intérêt de la nation congolaise. Donc on ne peut pas continuer à être utile à l'humanité sans que nous soyons utiles à nous-mêmes. Et pour que nous le soyons, et pour que nous soyons plus forts dans nos plaidoyers, pour que nous puissions bénéficier, comme j'ai vu madame la vice-première ministre le dire en Italie, et encore le dire la fois dernière, il faut absolument donner des garanties, donner la confiance à ceux qui veulent que nous puissions, et cette confiance passe nécessairement par un assainissement du secteur en soi.
Voilà, j'avais lu la réaction, je crois, des petits Jean Bengani, mais là, il est en ligne, certainement, qu'il a encore quelque chose à ajouter. Petit Jean, bonjour, vous nous appelez de Kinshasa.
Bonjour, Radio Okapi, je suis Jean-Louis Marcel, sur le pied au milieu de l'histoire de la Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, par rapport à cette thématique, je voulais juste ajouter un conseil. Les gouvernements doivent savoir que le monde espère la RDC, et surtout à ce qui concerne la réserve en oxygène après l'Amazonie. Alors, parce que ce que constatons nous aujourd'hui, surtout moi qui fréquente la route qui va vers Matadi, la route nationale numéro 1 de Matadi, qui va vers Matadi, vous trouverez chaque fois il y a des bois qui partent à Matadi, c'est les madres. Qu'est-ce que c'est ces bois? Ça part tout. Et vous rendez compte que si on revient ici à la RDC, on trouve qu'on exploite ce secteur et que nous ne puissions, nous ne définissions rien. C'est pourquoi je voulais juste conseiller au gouvernement d'établir des plans domestiques avant de lever ce moratoire. Je vous remercie.
Merci, Petit Jean, d'avoir appelé les Kinshasa, Monsieur Guy Kajemba.
Oui, je crois que nous ne pouvons pas seulement nous en prendre au gouvernement par rapport à ces agences d'engagement. Nous avons les moteurs de la déforestation de la RDC qu'on a défini. Et pourquoi nos forêts sont tentées d'être, disons, de disparaître ou d'être... Il y a une partie qui concerne effectivement l'agriculture qui s'étend dans les forêts, et une autre partie qui concerne l'énergie. L'énergie que le Makal a contribué à Kinshasa, ça vient de la forêt, une grande partie. Et que donc, en amont, il y a ce travail-là, en aval, il y a un autre travail que nous faisons dans le cadre maintenant de la RED. La gouvernance forestière, c'est une chose, mais bénéficier des financements par rapport au climat, c'est un autre travail qui est lié, parce que c'est la même base, mais qui a un travail qui est en train d'être fait, qui doit être fait par rapport au gouvernement, à d'autres ministères sectoriels, notamment le ministère de l'énergie, le ministère de l'agriculture, et les autres, pour qu'on puisse trouver des politiques qui permettent à ce qu'on puisse réduire la pression sur les forêts en mettant à la disposition d'une population de l'énergie propre, d'énergie sobre en carbone. Et donc, c'est un autre travail qui est en cours. On est en train de travailler sur la politique énergétique de la RDC, et on travaille aussi sur la politique agricole. Et que tout ça va concourir à un certain moment aussi à aider à ce qu'au-delà de l'exploitation forestière, la destruction anthropique, la destruction la pression des hommes sur la forêt puisse être réduite et espérer, et c'est sur base de ça qu'on peut continuer les négociations pour réclamer les paiements. Le paiement basé sur les efforts qu'on a consentis historiquement d'abord, parce que nous ne menaçons pas les forêts de manière exponentielle dans le futur, mais il y a un travail, il y a des efforts qui ont été faits dans le passé et qui permettent à ce qu'aujourd'hui la RDC se retrouve parmi les premiers poumons mondiaux.
Alors, puisque vous êtes, vous parlez de RED, qui est c'est la réduction des émissions, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ces processus, hein? Et puis, vous avez également évoqué, il y aura la COP26 à Glasgow. Quel peut être vraiment le message du gouvernement congolais face à ces processus RED?
Bon, le processus RED, d'abord, il faut rappeler que c'est depuis 2009 que nous avons une stratégie nationale RED. Oui. Et en 2012-13, on avait déjà un plan d'investissement. Ce qui est difficile pour nous, c'est que nous étions le premier pays Donc on était en même temps combat et en même temps... Donc c'est erreur. Il y a beaucoup de
choses. On est allé vraiment par tâtonnement. Tout à fait.
Parce qu'on n'avait pas de repères, on n'a pas de références pour construire. Mais finalement, on a eu une stratégie nationale qui était consensuelle, un plan d'investissement. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réunions internationales qui n'ont pas vraiment avancé.
Oui.
Mais ce n'est qu'avec l'accord de Paris qu'on a eu une ouverture en 2015, je crois, COP25, qui a donné un peu de lucidité et d'ouverture pour voir un peu comment est-ce que finalement on aura des financements. Parce qu'il ne s'agit pas de construire une stratégie de produit, mais il faut un moment qu'il soit financé. Et nous avions un plan d'investissement qui a eu un premier financement, enfin, qui n'est pas très grand, de 200 millions de dollars pour permettre à ce qu'on puisse démarrer. Et les négociations qui suivent, c'est avec le Central Africa Forest Investment, qu'on appelle CAFI, et qui va nous ramener aussi dans une discussion pour financer tout ce qu'on a parlé là dans les 10 ans qui suivent, à condition effectivement qu'on ne puisse pas violer les engagements qu'on est en train de prendre ou qu'on a pris.
Le respect des engagements également très important.
Notamment le moratoire.
Exactement.
Et après, à COP26, ce que nous allons amener là-bas, nous avons deux ou trois petites choses. C'est d'abord exiger que les contributions des terminaux nationaux des pays soient finalement une réalité, c'est-à-dire qu'on puisse maintenant que le gouvernement polluaire ou les grands gouvernements puissent mettre du paquet de l'argent dans ces engagements des pays pour réduire leurs émissions. Comme je le disais, nous étions à 17, on doit aller vers les 26, je ne sais pas combien, 26 milliards. Et c'est comme je dis, c'est pas un don. On ne va pas demander des cadeaux dans ces questions-là parce que nous avons quelque chose à mettre sur la table. Et on l'a mis à travers notre document. Donc ça, c'est un des plaidoyers qu'on doit amener là-bas, on doit amener à Glasgow. Et le deuxième plaidoyer, bien sûr, c'est l'ensemble des autres financements connexes, notamment la lettre d'intention qu'on tient à ce que soit signée, la lettre d'intention de CAFI qui a déjà dans les pipelines 1 milliard de dollars qui est annoncé. Et après, ça ne se limite pas là. Vous connaissez ces pays, on parle toujours des millions et des milliards partout. Après, nous avons un travail, nous, comme service civil, de nous rassurer que cet argent-là est en train vraiment d'arriver vers les communautés. C'est notre challenge, c'est notre...
Exactement, c'est notre défi. Mais alors, par rapport à ces financements, à tous ces milliards, si cela arrivait, est-ce qu'il y a déjà un canevas par rapport à ce qui doit être fait?
Oui, donc nous avons, comme je disais, nous avons une stratégie nationale et nous avons un plan d'investissement.
Essayez de nous expliquer tout ça. Oui.
Donc la stratégie nationale est construite sur 7 piliers. Les piliers ont été définis après des études sur les moteurs de la déforestation de la RDC. Et que c'est sur base de ça.
Vous avez parlé de la radioforestation. Vous avez parlé de quoi? Il y a un terme que vous avez dit là que j'aimerais qu'on comprenne tous, moi et les auditeurs. Vous avez parlé de la déforestation, c'est ça?
Oui.
Ah, la déforestation.
La déforestation.
Ah, là c'est clair.
La RED, c'est la réduction des émissions dues à la dégradation des forêts.
Tout à fait, c'est bien.
Ça, la RED.
Allez.
Alors, pour réduire ces émissions-là, il faut un certain nombre d'actions. Ces actions sont parties d'une étude sur les moteurs de la déforestation en RDC.
Déforestation, ouais.
Moteurs de la déforestation ont été définis à 7 niveaux. Et donc, si en agissant sur les 7 niveaux-là, on peut être sûr qu'on va réduire les émissions et qu'on pourra, à travers un système naturel de surveillance des forêts, démontrer les efforts que nous sommes en train de consentir pour réduire les forêts. Alors, tout cela est décrit dans un plan d'investissement qui est le bras financier, en fait, la partie financière de la stratégie et qui détermine un peu le travail qui doit être fait. Alors, pour le compléter, il y a les contributions déterminées nationales qui est aussi un document qui est là et qui aussi a intégré un certain nombre d'autres moteurs futurs. Et d'autres potentialités, notamment qui n'étaient pas prises en compte dans la stratégie de 2009. Ici, nous parlons des tourbières. Les tourbières sont réservoirs de carbone. Et que tous...
Ici, en RDC, c'est dans l'ancienne province de l'Équateur, c'est bien ça?
Oui. L'Équateur, à Lokolamba, par exemple, à Bikoro et partout là. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de tourbières. Et ces tourbières démontré scientifiquement, il séquestre suffisamment de carbone, beaucoup de carbone, qui peut être pris, disons, intégré dans notre demande en termes de contribution au niveau mondial par rapport à ce carbone séquestré. Et donc, c'est dans ce processus-là qu'on est arrivé à avoir un plan d'investissement. Et puis après, pour essayer un peu d'avancer, on a mis sur place le Fonds National RED. C'est un fonds national qui est là, un basket fund, où on espère que le financement va venir et pour essayer un peu de voir comment on adresse chaque moteur de la déforestation. On avait dit ici que parmi les grands moteurs de la déforestation, il y a l'agriculture, qui fait une grande pression sur les forêts. Et il y a l'énergie, comme vous voyez, quand vous allez seulement au port ici, vous avez des tonnes et des tonnes de macales qui viennent.
Et dès qu'on vous parlez de l'agriculture et également de tout ce qui se fait quand on boit du chauffe, c'est aussi cela les grands problèmes. Et quelles sont les solutions alternatives? C'est ça la grande question également. Si vous pouvez également évoquer cette question, parce que la population vit de cela.
Oui, nous avions été très mal à l'aise de constater que la République n'avait pas une politique agricole.
Ah, voilà.
Et donc, nous avons commencé par là, et c'est ça qu'on travaille d'abord. Donc, la première chose, dès qu'on aura une politique agricole, et une politique sur l'énergie, je crois qu'on aura des orientations claires par rapport à comment est-ce qu'on doit mettre les synergies, les efforts ensemble pour capitaliser tout ce qui existe. L'énergie, par exemple. L'énergie, nous rêvons toujours aujourd'hui, je l'ai dit encore ce matin, quand on est trop riche, on devient, quand on est héritier, mal préparé, on n'avance pas.
Parce qu'on ne sait pas gérer l'héritage.
Oui, on crie souvent sur avec Inga, c'est le premier satané de tout le monde et tout ça. Et on pense que ça peut être la réponse, nous y pensons aussi, mais nous sommes fatigués quand même. Après 30 ans, on dit Inga 1, Inga 2, Inga 3. Entre temps, à Kinshasa, l'obscurité s'accroît. Alors, la réflexion sur les réflexions sont en train de mener sur la politique. Nous venons de Abidjan, Côte d'Ivoire, pour voir un peu l'expérience d'un pays qui s'est construit sur base de cacao, rien que le cacao. On a été surpris de voir qu'on n'a même pas vu une minute où le courant est parti. D'une part. D'autre part, on a constaté aussi que la plupart des communautés n'utilisent plus. Parce qu'en fait, eux aussi, ils ont terminé presque toutes les forêts avec l'agriculture. Ils se sont orientés vers le gaz liquéfié, ou qu'on appelle le bonbon, le cuisine à gaz. Et après ça, la RDC a des potentiels hydriques terribles. Nous avons des rivières partout. Et que donc, il y a moyen de trouver des solutions géolocalisées, des solutions, spécifiques à chaque milieu et de réduire, de mettre à la disposition des communautés de l'énergie. Et à ce moment-là, il y a automatiquement la réduction de la pression sur les forêts. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est au début. La République est en train encore de se doter des outils, et que ces outils, nous travaillons ensemble pour qu'on puisse intégrer tout ce qui peut avoir comme potentiel pour l'alternative, afin que les gens soient desservis suffisamment en énergie.
Voilà, question de préalable à réunir. Avant de lever les moratoires sur les concessions forestières en RDC, nous en parlons avec notre invité Guy Kajimba, coordinateur du groupe de travail Climat RED. Si vous venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix, le numéro d'appel, si vous êtes intéressé, vous avez des préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas à composer les 081 890 63 94 ou les 099 716 63 94.
Capidance. Au Capidance, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais, d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Voilà, on va prendre un auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Jurès, vous êtes en ligne. Bonjour Jurès.
Oui, bonjour Monsieur Jurès.
On vous écoute Jurès.
Bon, merci encore une fois de me recevoir. En fait, je suis en train de regarder les statistiques du forêt Amazon, ce qui s'apporte au Brésil. C'est presque 73% de revenus au gouvernement brésilien. Bon, ma question est de savoir ceci. Pourquoi ne pas canaliser nos forêts ou bien nos bénéfices en énergie Parce qu'il y a d'autres contrées, ils n'ont pas vraiment cette capacité d'avoir cette énergie électrique, mais nous avons des grandes forêts qui peuvent alimenter à toutes ces contrées-là. Et puis, on nous appelle souvent que nous sommes une scandale géologique, nous sommes les poumons de l'humanité. Mais en général, nous ne respirons pas de tous ces bienfaits-là, de nos forêts, de nos espaces. Vous avez l'espère devant vous. Qu'est-ce qui pourra moi conseiller et un chemin qui pourra encore nous éclairer pour avoir vraiment tous les bénéfices là sur nous? Parce que si vous voyez le Brésil aujourd'hui, ça dépend de ça. Et c'est là où je suis en train de me poser la question. Un grand pays comme le nôtre, mais on ne sait pas bénéficier de ce que nous avons. J'ai fait mes études au Brésil et quand on me demande sur quelle nationalité je dis je suis congolais. Ils me disent, bon, votre pays c'est un pays béni. Mais avec tout ce qu'on vit, c'est tellement différent avec ce que nous avons comme mérite. Je ne sais pas quelle solution encore notre frère pourra nous donner au moins sur ça.
Voilà, merci. Je reste d'avoir appelé des Kinshasa, M. Guy. Vous avez la parole.
Oui, le Brésil, je pense qu'il y a une différence qui est une différence liée à la gouvernance même de ces deux pays. Le Brésil a pris l'option de se passer de tout ce qu'il y a comme engagement national et international et de développer son pays avec l'agro-industrie et tout le reste. Et d'une part et d'autre part, et puis avec l'exploitation industrielle, bien sûr. Mais à cela s'ajoutent les ouvertures. Nous avons été au Brésil, nous avons vu que le Brésil est urbanisé. Il y a des autoroutes dans les forêts. Mais ici, chez nous, si vous voulez faire sortir un morceau de bois de Maindo, dans la brousse, là, il y a des moments où il y a des grimes abandonnées. Parce que la navigabilité, les ouvertures ou le voie ne permettent pas de faire ce travail. Donc nous avons finalement une richesse historique liée au fait que nos forêts sont inaccessibles. Voyez-vous? Et que donc la différence entre nous et le Brésil, c'est pour ce que nous disons que nous revendiquons beaucoup plus la protection des forêts historiques. Le travail historique. Le Brésil, il revendique les menaces. C'est-à-dire, lui, il dit que si vous n'avez pas la main, je vais couper. Et on dit oui, il peut couper parce qu'il a des routes. Et nous disons, nous avons déjà conservé ces forêts sont là, ils seront là. Alors, qu'est-ce que vous faites de nous? Donc, c'est un peu les deux différences. Donc, évidemment, c'est un choix à faire. C'est un choix qu'on pourrait faire, mais je pense que ce sera très compliqué pour nous de prendre l'option de Brésil, parce qu'on peut nous laisser dire allez-y, mais c'est déjà un exercice terrible pour faire sortir le bois de l'Ocolam ou de l'Équateur, là où, jusqu'à arriver à Kinshasa. C'est déjà un travail très dur parce que le déplacer dans la forêt, il n'y a pas des ouvertures, et après c'est le fleuve. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous nous positionnons en tant que réserve historique, en tant qu'un pays ayant les taux de déforestation.
Mais maintenant on doit tirer profit de cela, c'est ça les grands problèmes. Il faut pas prendre ces engagements-là et vous faites un effort de respecter les engagements, mais vous n'en profitez pas jusque-là, c'est ça les grands problèmes, monsieur.
Et voilà pourquoi nous avons décidé de travailler sur la RED. La RED a deux principes.
Exactement, allez-y.
Le paiement basé sur les résultats. Paiement, on ne dit pas les dons ou le quoi. Le paiement basé sur les résultats et la réduction de la pauvreté. Paiement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des forêts, nous donnons des garanties qu'on va les protéger, qu'on puisse les payer. Donc, s'il faut, et c'est ça, c'est
quand choix. Vous dites vous donnez des garanties, c'est-à-dire que vous engagez à ne pas utiliser ces forêts-là.
À condition, qu'on soit payé. C'est-à-dire que c'est donnat-donnat.
Donnat-donnat, c'est effectivement.
C'est ça l'avantage du processus. C'est pourquoi ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est difficile aux autres d'accepter. Et on va continuer, on sera à la COP26 pour dire ça. Pour répéter qu'on a droit à être pris en charge, à être rémunéré. Rémunérer, pas donner des dons comme on fait là, les dons de ceci ou de là, rémunérer par rapport à potentiel, par rapport à notre contribution à la survie de l'humanité. C'est un travail. qui demandait. Évidemment, nous avons eu beaucoup de retard parce qu'il y avait très peu d'engagement politique, ça je le rappelle toujours. Nous avons eu des difficultés, on espère, je vous ai dit devant Radio Okapi ici, on espère que nous serons à Glasgow avec notre chef d'État, parce que c'est une matière de haut niveau, c'est une COP, conférence des États. Et depuis que ça existe, je n'ai jamais appris ou vu notre chef de l'État là-bas. Oui, donc il y a un niveau de négociation où on doit amener ce débat à un niveau plus élevé pour que les discussions soient plus prises en considération et par rapport à la réalité. Parce que c'est une réalité intéressante. Ce sont des grandes réunions où toute la nation entière est consciente du fait que d'ici 2050, on aura 1,5 degré de plus. Et qu'il faut que tout le monde se mette ensemble, qu'on se batte plus pour que cette température-là ne puisse pas monter parce que ça sera la catastrophe. Voyez-vous.
Et en termes de la contrepartie financière, vous parlez des milliards.
Ah bien sûr. Oui. Ah bien sûr, parce que bon, il y a deux aspects de paiement. Il y a d'abord ça, cette contribution-là, mais il y a aussi les marchés d'achat-vente carbone. Ces marchés-là existent, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pollueurs des entreprises, Chevron, c'est pas moi, Mobil ou Exxon et les autres, qui ont mis des moyens pour acheter leurs policiers. Et là, c'est aussi un autre travail, mais qui se fait dans les juridictions, c'est-à-dire avec les espaces forestiers, pas avec une république entière. Et l'autre niveau, c'est dans ce niveau d'engagement par rapport à notre contribution déterminée nationale. Et là, nous fixons la barre à ces milliards-là pour dire, voilà, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ces conditions-là, on doit les respecter et qu'eux doivent respecter les leurs. Et c'est là le plaidoyer que nous amenons tout le temps. Dans les grandes discussions nationales et internationales.
En tout cas, c'est vraiment intéressant par rapport c'est très intéressant, je l'ai dit, tout ce que vous venez de nous dire, surtout par rapport à ces processus RED et surtout aux engagements pris par la RDC pour protéger les forêts, mais en contrepartie, il faudra que cette masse d'argent puisse arriver, parce que quand vous parlez des 2 milliards, ça pourra servir à beaucoup de projets dans ce pays. On a vraiment beaucoup, on a besoin d'argent, et nous espérons vous retrouver hein, pour en tout cas vous aider, vous accompagner par rapport à votre plaidoyer et voir qu'est-ce qui va se passer après la COP26 c'est au mois de novembre à Glasgow, c'est bien cela de cette année. C'est bien cela, c'est au mois de novembre de cette année,
c'est
tout à fait.
C'est oui, du 1er au 12 novembre.
D'accord, j'espérais que vous serez là et vous avez émis le vœu que le chef de l'État lui-même également soit présent pour défendre la RDC hein, par rapport à cette question de processus RED et la RDC doit s'y retrouver. Voilà, merci Guy Kajimba. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du groupe de travail Climat RED. Merci d'avoir été des nôtres pour aborder cette question sur les préalables à réunir avant de lever les moratoires sur les concessions forestières en RDC et également de nous avoir parlé du processus RED en RDC. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.
J'avais voulu que tu sois mon premier amour. Mes pensées sont toutes à toi et mon cœur, tu l'as déjà.
Bolingo yangana yo ebanda. Kala te ye ye ye. Bolingo yangana yo ebandisika. Ba masta kutu banimaka te keto koko visa bolingo yango. Bolingo yango ekomi makasi. charme fragile. J'aime mon canon, vieille Ali, papa n'a félicité, trésor n'a pas.
Voilà cette belle note musicale met terme à ce numéro du magazine Okapi Service de ce jour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à JC Siala qui est à la technique. Merci à Célestine et Massoudi qui l'a réalisé et coordonné. Au micro, c'était Marcel Ngomobala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Au plaisir de vous retrouver demain à partir des 10h, 3h de Kinshasa dans un nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien. D'ici là, bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix et prenez soin de vous. Il est 12h.